Bonjour à tous. Chantal et moi, nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin pour vivre ce temps de culte. Vraiment, c'est une joie et une grâce aussi que de se retrouver dimanche après dimanche. Merci Seigneur pour ce privilège qui est le nôtre de te connaître et de pouvoir aussi te rendre en retour la gloire qui te revienne. Je ne vais rien rajouter à ce que nous avons vu et entendu là avec les images, mais nous avons vécu une semaine, je dirais pas folle, mais incroyable. Incroyable. Parce que nous avons un Dieu qui est incroyable. Et il fait de nous des gens incroyables parce qu'il œuvre à travers de nous. Ce qui est en train de se réaliser au 106, c'est important. Je dirais juste ça, mais le plus important, qui va être après, ça va être de voir des âmes venir, de voir des âmes sauvées, des malades guéris, des personnes libérées, des cœurs brisés, restaurés. C'est ça l'objectif, qu'on ne le perde pas de vue. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. Et figurez-vous que, bon, moi je ne crois pas au hasard, mais à l'heure actuelle, dans ma lecture quotidienne, je suis tombé dans un livre de l'Ancien Testament, et évidemment je ne peux m'empêcher de faire des parallèles avec ce que vous vivez avec le 106. Figurez-vous que c'est un gars il a été déporté, il s'est retrouvé à gérer la cave d'un roi. Et en plus de gérer la cave, il avait la mission de goûter, de déguster. Bon, c'est pas si mal que ça jusqu'à présent. Mais après, il devait goûter le vin devant le roi pour prouver qu'il n'était pas empoisonné. Et puis, un jour, il apprend des nouvelles terribles. Et pendant 4 mois, il se met à jeûner et à prier. Vous avez reconnu de qui il s'agit. Néhémie. Et je voudrais rajouter ceci. Le livre de Néhémie, c'est un magnifique manuel de management, de leadership, de gestion humaine, incroyable. Et, bien sûr, moi, des fois, j'ai des rêves un peu fous, et je me dis, mais si dans les écoles de management, on étude biblique le livre de Néhémie, je crois qu'il n'y aurait plus beaucoup de conflits dans les relations humaines. Bon, ça c'est ma réflexion à moi. Mais c'est une mine incroyable, ce livre. Alors évidemment, ce matin, nous serons loin d'avoir fait tout le tour de ce que contient ce livre. Mais en tout cas, c'est un livre à lire avec la tête bien reposée. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à retirer. Alors, Néhémie, le titre, j'ai donné le titre, Néhémie, un exemple à suivre. Et je pense que vous avez la même Bible que moi, et ma Bible parle d'encouragement, et elle nous parle aussi de découragement. Et il peut y avoir plusieurs raisons au découragement. Et pour appuyer mon message, je prendrai tout simplement l'exemple de Néhémie qui correspond bien à la situation actuelle de la vie de votre communauté. Le thème principal du livre de Néhémie est la reconstruction de la muraille et des portes de Jérusalem. Je passerai sur l'appel ressenti par Néhémie pour entreprendre ce travail, mais à plusieurs reprises, ce pauvre Néhémie, il aurait pu être découragé. Il aurait pu dire, bon, ben, j'en ai ras-le-bol, je retourne en Perse, gérer ma cave, point. Mais il a persévéré. Il a donc obtenu un congé du roi pour aller à Jérusalem. Mais au chapitre 2, verset 10, nous lisons, au chapitre 2, verset 10, « Sambala le horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Et au chapitre 4, Dans les 17 premiers versets, Néhémie et son équipe sont moqués, méprisés, et au chapitre 5 et 6, il commence à y avoir des dissensions internes. Et malgré tout cela, alors là, écoutez bien, alors là, c'est là que je rêve. Il est arrivé à achever l'œuvre de reconstruction en 52 jours seulement. Vous imaginez? On termine le 106 en 52 jours. Luc sourit. Parce qu'il sait que c'est pas possible. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. 1 Incroyable. Alors, qui était l'homme Néhémie? Alors, je vous rappelle, donc, il était échanson du roi. Il goûtait le vin avant de le servir au roi. Et c'était une façon de prouver, bien sûr, qu'il n'était pas empoisonné. Donc, il fallait acquérir la confiance du roi pour accéder à cette place importante. Alors, pour Néhémie, les mots échec, défaite, perdre et quitter ne font pas partie de son vocabulaire. Néhémie se dit, Dieu et moi, oui, nous sommes une minorité invincible. Alors que le Seigneur nous donne une double portion de l'esprit de Néhémie. Il est écrit en Romains 8, 37, quand Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes comme Néhémie, moins que vainqueurs. Vous voyez, si c'est pas beaucoup, là. Là, vous n'êtes pas avec moi, là. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Parce que, tout chrétien est appelé et équipé par Dieu, comme Néhémie l'a été, pour triompher des adversités que l'ennemi place sur sa route. Et n'imaginez pas, parce que c'est pas parce que nous sommes dans le projet, dans la volonté de Dieu, qu'il n'y aura pas de difficultés. Là, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des difficultés. Et c'est là que notre foi intervient. Et c'est là que notre persévérance intérieure. Donc, et puis, tous les chrétiens engagés rencontreront des difficultés. Et c'est normal. L'apôtre Paul le dit d'une autre manière. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés. Persécuté, mais non abandonné. Terrassé, mais non anéanti. Et puis, il poursuit en 2 Corinthiens 4, versets 4 à 6. On nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout alors que nous possédons toutes choses. Néhémie au chapitre 2 a la volonté de réussir. Il y a 6 choses qui nous montrent à quel point Néhémie est super motivé. D'abord, il demande une faveur et se présente devant le roi avec le visage triste. C'est comme s'il sortait de chez le dentiste, vous voyez? En mettant sa vie en danger, parce que avoir une mauvaise mine devant le roi, à cette époque-là, c'était une offense grave. À cette époque, en Perse, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ, c'était très, très grave de ne pas sourire devant l'empereur. C'était se retrouver soit dans le fond d'un cachot pour le restant de sa vie, ou le pire, c'était de se faire couper la tête. Et au verset 5 du chapitre 2, Néhémie répondit au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Néhémie a pris un risque incroyable. Le risque non seulement de s'approcher du grand Artaxerxès, avec l'air d'un chien battu, mais aussi pour demander un congé payé sans solde. Ou bien, notre ami Néhémie, il a la foi, ou alors il est devenu dingo. Il veut se faire, il court au suicide. Et après ça, au chapitre 2, versets 7 à 8, puis Néhémie dit au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois, de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie a l'audace d'en remettre, comme on dit, une couche. Il allonge la liste des courses pour lui. Il rallonge sa requête en demandant une pleine protection militaire, des tas de matériaux gratuits, des papiers en règle et signés, tamponnés par sa majesté lui-même. Et ensuite, au verset 9, Néhémie se rendit auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et il remit les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Il traverse donc, sans être inquiet, tout le pays. Le pays, à cette époque-là, était rempli de brigands. Et il entreprend ainsi un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, probablement sur le dos d'un chameau. À l'époque, il n'y avait pas de voiture climatisée. Mais rien ne décourage cet homme. Il arrive, une fois arrivé, au chapitre 2, versets 12 et 15, nous allons lire ce qui lui arrive. Chapitre 2, verset 15, 12, à partir du verset 12 jusqu'à 15. Alors, il faut que je recherche, là, je suis au chapitre 4, voilà. 12 à 15. Après quoi, je me levai pendant... Donc là, Néhémie est arrivé à Jérusalem. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la tête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Il fait un état des lieux avec précision. Mais il ne se précipite pas pour faire n'importe quoi et avec n'importe qui. Et enfin, voilà trois ennemis qui apparaissent pour l'intimider. Et là, il aurait pu être découragé. Ça y est, je suis à peine arrivé, qu'il y en a qui commencent à me mettre des bâtons dans les roues. Et au verset 20, il affirme avec une confiance absolue que le projet va se réaliser malgré les menaces. Et Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il aurait pu dire, peut-être que si Dieu le veut, non, il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous là, qui voulait nous créer des problèmes. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il fallait du courage. Il fallait de l'audace pour dire cela. Parce que ces trois personnages-là, c'est pas des enfants de cœur, excusez l'expression, c'était des adversaires coriaces, redoutables. Ils avaient des motivations différentes, c'est vrai, pour s'opposer pour opposer une résistance au projet de reconstruction. Le premier, Sambala. Sambala, lui, voulait contrôler politiquement la ville. Une chose impossible une fois que le moral du peuple serait restauré par la reconstruction de la ville. Puis le deuxième, Tobija, quant à lui, lui, il avait des ambitions religieuses. Il voulait mêler le culte à l'éternel avec des pratiques païennes. Lui aussi savait très bien que son ambition serait contrariée par le projet de Néhémie. Et puis, en fait, le troisième personnage, Geshem, son intérêt, lui, c'était le commerce. C'était un trafiquant en toutes choses. En fait, lui, c'était le business qui l'intéressait. Et il savait que la reconstruction de Jérusalem représentait une perte de revenus importante pour lui. Mais Néhémie a bien plus fait que réparer quelques brèches dans un mur. Il a fait plus que cela. Il a aussi réformé toute une communauté. Le livre de Néhémie, c'est le récit de la restauration de tout un peuple qui passe de la ruine, du relâchement à la naissance avec Dieu. Néhémie a dû franchir bien des obstacles et affronter de nombreux adversaires. Et c'est en cela qu'il est un exemple de persévérance, d'intégrité et de discernement spirituel. Le deuxième point, c'est comment Néhémie a fait face à ce qui aurait pu le décourager. Je vous rappelle que la muraille a été reconstruite en 52 jours. C'est ce qui est indiqué au chapitre 6, verset 15. Le travail pour Dieu ne s'accomplit jamais sans rencontrer de problèmes, de résistance, de difficultés. Cela n'existe pas. Ou alors, à ce moment-là, si vous êtes engagé dans une œuvre quelconque et tout baigne, que vous roulez à 200 à l'heure sur une autoroute, il va falloir se poser de sérieuses questions. La première, suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Le travail pour Dieu ne s'accomplit jamais sans rencontrer de difficultés. Rappelez-vous du parcours pour l'achat du 106. Il y a dû y avoir des pourquoi, il y a dû y avoir des peurs, il y a dû y avoir des doutes, peut-être des insomnies, des angoisses. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Rien ne lui a échappé. Je dis bien absolument rien. Un jour, elle a ouvert la fenêtre du ciel. Il a tendu l'oreille. Il a entendu la prière des uns et des autres. Et le Seigneur n'arrive jamais en retard. Jamais. Néhémie n'a pas été ébranlé, déstabilisé par l'opposition. Il a refusé de se détourner du travail placé sous sa responsabilité. Néhémie avait un secret. La prière. La prière, c'est la plus grande force que nous, chrétiens, nous avons sur terre. La prière, c'est comme un levier que vous placez sous un rocher de 100 tonnes et qui va vous faire déplacer le rocher. C'est une illustration. Et chaque fois que Néhémie s'est trouvé dans une situation qui le dépassait, il se tourna vers Dieu et pria. C'est là une leçon pour nous, une magnifique leçon. Alors n'essayons pas de trouver des solutions humaines, mais tournons-nous vers celui qui a la réponse. Et la prière est une véritable force dans la vie du croyant. La prière de Néhémie fut une prière persévérante. Et en priant, Néhémie a pris conscience de quelque chose d'important. Il a pris conscience que la barrière qui retenait Dieu de renouveler les privilèges qui accompagnait l'alliance qu'il avait conclue avec son peuple était le péché non confessé. Au chapitre 1, verset 7, Néhémie dit « Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Néhémie aussi s'identifie avec le peuple. Et après 4 mois d'intercession, Dieu donne la solution à Néhémie. Et chaque fois qu'il se trouvait dans une situation difficile ou critique, il avait recours à la prière. Oh, ce n'était pas des prières qui duraient la journée. C'était des prières qui, style SMS, voyez. Prières courtes, spontanées, précises et suffisantes. Et puis, Néhémie aussi avait un esprit de discernement et de courage. Il s'est vite aperçu des machinations de Sanballat. Et il a eu une vision claire du problème. Satan veut nous faire chuter. Il veut nous conduire dans de mauvaises voies. Mais si nous demandons au Seigneur de nous équiper de cet esprit de discernement et de courage, nous pourrons le démasquer et remporter des victoires dans nos vies. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le diable, souvent, va utiliser, par exemple, si nous avons un problème ou un trait de caractère qui nous empoisonne, Satan va être capable d'utiliser cela pour ficher la pagaille. C'est à nous d'être attentifs à cela. Seigneur, parle-moi, montre-moi. Viens transformer encore ce qui est de travers chez moi. Afin que, quand je suis avec mon frère ou ma sœur, que je ne vienne pas, que je ne sois pas une pierre d'achoppement. Et pour cela, on demande l'aide du Saint-Esprit qui vient de nous éclairer. Nous avons chacun des dons, des talents. Nous venons de milieux différents, divers. Et quand tout le monde est là ensemble, imaginez, Néhémie était entouré de, je sais pas, de 100, de 1000 personnes, plusieurs milliers de personnes qui travaillaient ensemble côte à côte et qui avaient des métiers différents. Et les uns n'avaient jamais taillé de la pierre, les uns n'avaient jamais monté des pierres, enfin, n'avaient jamais pris le niveau pour vérifier si c'était d'aplomb. Et ils l'ont fait. Parce que chacun a accepté l'autre tel qu'il était, avec ses travers, cette magnifique aventure du 106, c'est aussi en quelque sorte une école dans laquelle Dieu veut entraîner chacun pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Et ça, c'est formidable. Merci Seigneur. Moi, le premier, j'ai encore un tas de choses à apprendre. Et plus je vieillis, plus je sais que je ne sais rien. Alors, voyez, j'ai encore plein de choses à apprendre. Nous tous, nous passons par des périodes où Dieu nous appelle à entreprendre une œuvre de reconstruction dans nos vies. Peut-être que Dieu te demande de reconstruire, par exemple, ton mariage en difficulté. Peut-être que tu es appelé à reposer de saines fondations dans un projet au travail ou à réparer des relations brisées ou à rétablir la seigneurie de Jésus dans ta vie. Et Néhémie nous montre qu'il faut avoir de la volonté pour réussir. Alors peut-être que ce matin, Dieu te parle sur ce besoin de restauration, de reconstruction, de réparation, de rétablissement dans ta vie. Et ta croissance en Dieu a-t-elle été détraqué ou stoppé par l'ennemi? Ou est-ce que tu te trouves toujours à la case départ, ou guère plus loin dans ta foi qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Ça peut être possible. Alors il faut se poser la question, pourquoi, Seigneur ? En conclusion, voyons les quatre méthodes utilisées par Néhémie pour vaincre les obstacles et le découragement. À la moquerie qu'il rencontre au chapitre 2, verset 19, il répond par la confiance au verset 20. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais si vous réentendez, vous reprendrez les références. À la colère et au mépris, au chapitre 4, versets 7 et 8, il répond au verset 9 par la vigilance et la prière. Au découragement de ses amis, au chapitre 4, versets 10 à 12, il répond par le courage et la fermeté, au verset 13 et 14. Et l'œuvre achevée, les ennemis sont confondus par les efforts persistants, au chapitre 6, versets 1 à 15. Dieu veut édifier quelque chose de beau sur les anciennes ruines des cœurs brisés, des déceptions professionnelles, des relations cassées. Dieu veut reconstruire quelque chose de super. Dans le livre de Joël, Dieu dit « Je te restaurerai les années qu'ont volé les sauterelles ». Et dans le chapitre 2, au verset 17, Néhémie dit « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. » C'est un spectacle de désolation. Mais à la fin du chapitre 13, au chapitre 13, la mission est accomplie. Le job a été fait. La muraille est en place. Les portes ont retrouvé leur fonction et le peuple est renouvelé. Pourquoi ? Parce que Néhémie avait la foi pour dire au chapitre 2, verset 17, « Allons !» Il n'a pas dit « Allez !» Il a dit « Allons, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Néhémie a la volonté de réussir parce que la ville sainte où Dieu trône sur les louanges de son peuple, c'est un tas de briques. Son peuple est dans un état pitoyable, ruine morale, ruine spirituelle, et Néhémie ne peut pas être en paix tant que le problème n'est pas réglé. Le Nouveau Testament dit que nous sommes le temple de Dieu, un saint édifice que Dieu construit sur les fondations des apôtres et des prophètes. Et Jésus est la pierre angulaire, celle de l'angle. Alors, qu'est-ce qui doit être reconstruit dans ma vie? Selon le fil à plomb divin. Si tu sais aujourd'hui que ta vie avec Dieu est un tas de ruines, une vie de prière creuse, des attitudes relationnelles à rebâtir, une soif de la parole absente, un amour pour le Seigneur refroidi, la tristesse au lieu de la joie, l'égoïsme au lieu du premier amour, les sagesses humaines au lieu de la foi. Je prie le Seigneur pour qu'il te donne la même volonté de vaincre qu'avait Néhémie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.